Alors, avant de parler des sacrements, je vais vous lire un passage de la lettre aux Romains. Il est trop beau ce passage et je vous inviterai vraiment à pouvoir le relire par la suite. Je vous ai mis les références. Il parle du baptême et il parle de la vie nouvelle après. Et cette vie nouvelle, c'est ce qu'on appelle la vie des sacrements. Donc en fait, vous voyez, il n'y a que dans ce texte-là, Saint Paul ne parle que du baptême. Mais quand il utilise le terme vie nouvelle, ce qu'il entend par ce terme vie nouvelle qui est donné par le baptême, c'est la vie qui va se déployer avec les sacrements. Okay. C'est donc au chapitre 6. Ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est beau, hein? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par groupe de 3-4, comme d'hab. Vérifiez bien à ce que personne autour de vous se retrouve tout seul. Et vous échangez simplement sur ce texte. Pas sur les sacrements pour l'instant, peut-être que... Si vous êtes à court d'idées sur le texte, vous pouvez simplement vous dire, ça veut dire, pour moi, quand on parle de sacrement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour l'instant, on essaie de rester sur le texte. On aura un deuxième temps après, un peu plus tard, pour les sacrements. Let's go. 3 minutes. Donc, les sacrements. Cette vie nouvelle dont nous parle Saint Paul dans la lettre aux Romains, qui nous est donnée par le baptême. Donc Saint Paul dit bien, en fait, c'est par le baptême que vous êtes entré dans cette vie nouvelle. Et je ne sais pas si ça vous a marqué ou si vous l'avez redit dans les petits temps de partage là, mais il n'arrête pas de parler de mort au péché et de vie avec le Christ. Et il dit, en fait, Jésus sur la croix, il est mort au péché. Voilà. Cloué sur la croix le péché, et par la résurrection, il y a une vie nouvelle qui nous fait passer d'une vie de péché à une vie libre avec le Christ. Et ce qu'on appelle la vie nouvelle, c'est la vie où on est passé d'un état où on était marqué par le péché à une vie où on n'est plus marqué par le péché. Ça va jusque-là? Alors ça, c'est la doctrine qu'il y a quand Saint Paul parle, et après, au fur et à mesure, on y reviendra peut-être après, mais on voit bien qu'en fait, malgré le baptême, on continue de faire des péchés. Et donc, en fait, on va déployer un peu cette question-là. Mais chez Saint Paul, vous voyez, c'est très clair qu'il y a un passage entre, par le baptême, un passage entre une vie ancienne et une vie nouvelle. Il utilise à un moment l'expression de vieil homme. Il aurait pu dire vieille femme aussi. Mais en gros, pour lui, le vieil homme ou la vieille femme, c'est nous avant le baptême, quoi. Et la vie chrétienne nous fait entrer dans une vie nouvelle, un nouvel homme, une nouvelle femme. Ça va? Donc, les sacrements, qu'est-ce que c'est? Déjà, le premier truc, c'est qu'on voit Jésus agir dans l'Évangile et Jésus pose des signes. Jésus aurait très bien pu dire, par exemple, « Je suis venu pour guérir les malades » et juste parler, juste dire « Je vais guérir les malades » ou « Un jour, je guérirai les malades » et pas le faire. Jésus aurait très bien pu se contenter d'un message oral et n'a pas avoir de gestes qui accompagnent sa prédication orale. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus, il parle, et à chaque fois qu'il parle, il accomplit des gestes. Parfois, il accomplit des gestes, et ensuite, il parle. Et donc, quand on regarde l'Évangile, moi, je vous ai mis quelques références de Saint Jean, parce qu'en fait, Saint Jean, on l'appelle le livre des signes. Donc en fait, il ponctue son évangile de plein de signes qui nous donnent de voir qui est Jésus, quelle est son action. Mais donc, on va voir Jésus, par exemple, multiplier les pains. Il aurait très bien pu dire aux gens qui sont là, « Vous inquiétez pas, il y a un jour où vous aurez plus faim, mais là, bon, bah, tant pis pour vous, pour ce soir, vous allez avoir un peu faim. » Non, Jésus voit que la foule a faim, il multiplie le pain pour eux, et ensuite, il fait un discours sur le pain en disant, « Vous voyez ce que j'ai fait là pour vous aujourd'hui, je continuerai de le faire avec un pain qui sera ma chair. » Et donc, il préfigure à ce moment-là l'Eucharistie. Jésus, il va pardonner les péchés. Je vous ai mis le passage de la femme adultère. Il dit à la fin, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Il dit à la femme adultère. Il y a d'autres moments où Jésus va redonner la vie, va guérir. Bref, on voit que Jésus pose des signes et que ces signes, vous voyez, ce n'est pas simplement des trucs extérieurs qui se passent, mais révèlent des choses intérieures. Quand il dit à la femme, « Va et désormais ne pêche plus », on n'a aucun moyen de vérifier si à l'intérieur elle a été pardonnée de ses péchés, mis à part la confiance qu'on met dans la parole de Dieu à ce moment-là. Mais vous voyez, il n'y a pas, c'est un signe extérieur, il y a une parole qui est donnée, et dans la foi, on l'accueille comme quelque chose qui change chez cette personne. Ça nous amène à la définition de ce qu'est un sacrement. Un sacrement, c'est un signe visible d'une réalité invisible. Ok ? Un signe visible, ceux qui ont été baptisés à Pâques, on vous a vu être mouillés. Ok ? Enfin, je ne sais pas si il y en a qui étaient là, mais enfin, en tout cas, moi, j'étais dans la piscine à côté. Non, mais vous voyez, enfin, on voit, c'est-à-dire qu'il y a un signe qui a été posé, c'est-à-dire qu'ils ont été plongés avec une parole qui a été « Moi, un tel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et la personne s'est relevée, trempée. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle le signe visible. Mais est-ce que c'est la même chose que quand l'été vous allez vous plonger dans la piscine et que ce week-end là, j'ai fait dans une famille, c'était marrant, le petit garçon, il avait 3 ans, il s'amusait à baptiser sa petite sœur dans le bain. Bon bah typiquement là il y avait un signe visible, il baptisait sa petite sœur, il l'a plongée dans l'eau, mais il n'y a pas une réalité invisible qui est derrière, enfin, il ne s'est rien passé, quoi. Elle n'a pas été rebaptisée à ce moment-là. Alors que ceux qui ont été baptisés là à Pâques le savent très bien. Il y a un signe visible qui a révélé quelque chose d'invisible, qui est le baptême, le fait d'être pardonné de ses péchés, d'entrer dans cette vie nouvelle. Ça va sur ce point ? C'est hyper important parce que, voyez, dans ce que je vais développer après, on est toujours dans un rapport entre des choses, des actes, des paroles et des gestes qui vont être posés, généralement par le prêtre, mais où c'est important d'avoir cette dimension-là du sacrement. Mais si on en reste là, on passe à côté de ce qu'est réellement le sacrement. Parce que ces signes-là, ils sont posés en vue d'une réalité invisible qui est beaucoup plus profonde et qui est ce pourquoi il y a le sacrement. Sachant que le but du sacrement, c'est de nous communiquer cette vie nouvelle, toujours plus la vie nouvelle de Dieu. Donc on y entre par le baptême, mais tous les autres sacrements, c'est pour ça que pourquoi on ne peut pas commencer par exemple, je sais pas, par l'Eucharistie, par... En fait, on commence par le baptême parce que c'est la porte d'entrée pour les sacrements, parce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit la vie de Dieu, qui ensuite va se déployer, aidé par les autres sacrements. Mais le but à chaque fois d'un sacrement, ce n'est pas une aide ponctuelle ou vous voyez, un truc où on dit, bon, tac, là, je vais avoir un petit sursaut, un petit surcroît de grâce à un moment dans ma vie. Ce n'est pas ça le but d'un sacrement. Le but d'un sacrement, c'est de dire que vous avez reçu un cadeau qui est la vie nouvelle par le baptême. Et ce cadeau-là, eh ben, ce n'est pas simple d'en vivre vraiment. Et donc, on va continuer avec d'autres sacrements qui vont nous aider à vivre de la vie de Dieu. Alors, je fais un petit point, là, mon premier point, sur le rapport des sacrements à Jésus. C'est hyper important, parce que parfois, on peut avoir dans notre esprit un truc très séquencé de l'histoire un peu du salut, c'est-à-dire il y a une période où c'était Jésus qui agissait, bon, bah, maintenant, c'est l'Église qui agit, mais c'est déconnecté de ce que Jésus faisait. Ça, c'est pas... Enfin, c'est pas ce qu'il faut retenir, quoi. C'est pas comme ça qu'on réfléchit, vous voyez, en théologie catholique. Donc, en fait, aujourd'hui, l'œuvre de l'Église, c'est de continuer ce que Jésus a fait. Ok ? Continuer ce que Jésus a fait. Parce que parfois, on pourrait se dire, en fait, est-ce que ce serait pas plus simple, vous voyez, d'avoir Jésus qui débarque, que je puisse le toucher, dire, ok, c'est vraiment lui, il a vraiment, je peux même le sentir, je peux faire ce que je... Vous voyez ? Et parfois, on peut même avoir ce truc de dire, en fait, moi, j'aurais aimé être là, il y a 2000 ans, être un pêcheur de Galilée et de voir Jésus passer et qu'il va me dire, bah, Marco, suis-moi. Moi, je vous dis, ça va simplifier peut-être mon discernement d'avoir Jésus qui passe à côté de moi et qui dit « Marco, suis-moi ». Ça va devenir pêcheur d'homme à ma suite. En fait, c'est pas comme ça que s'est passé mon appel à devenir prêtre. Parce qu'aujourd'hui, la modalité, la façon dont Dieu continue d'agir est différente. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, c'est plus Dieu lui-même qui agit ? Vous voyez, comme un truc un peu de un lot de consolation. Ben, nous, on arrive 2000 ans après. Bon, allez, le Seigneur, il est quand même sympa. Il nous donne des petits bonbons, des petites friandises de temps en temps pour en dire quand même... Mais vous voyez, comme c'était un petit truc... Alors qu'en fait, le but de cette séance sur les sacrements, c'est de comprendre que la façon dont on peut toucher Dieu aujourd'hui est aussi profonde que ce que pouvaient vivre les pêcheurs il y a 2000 ans quand ils ont rencontré Jésus au bord de Galilée. Donc, il y a plusieurs types de paroles quand Jésus parlait avec ses disciples. Parfois, c'était des actes que Jésus faisait. Donc vous voyez, Jésus, à un moment, il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc là, c'est un acte de Jésus. Il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et il ne demande rien à ses disciples, il dit rien pour le futur. Mais à ce moment-là, Jésus pose un acte pour ses disciples, pour la suite. Donc là, premier type de parole, c'est quand Jésus... un acte même de Jésus. Le deuxième type, c'est des instructions qu'il a données à ses disciples. Parfois, alors qu'ils parlaient, Jésus leur a dit de faire certaines choses pour la suite. Et notamment, à un moment, il va leur dire « Baptisez-les hein, ». Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à garder les commandements. Donc là, il y a une consigne qui est donnée aux disciples pour la suite. Le troisième type de parole, c'est des promesses que Jésus fait. Notamment, au moment, il va leur dire à tous ceux qui vous remettraient leurs péchés leur seront remis. Là, Jésus promet le pardon des péchés par l'intermédiaire des apôtres. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des moments où Jésus lui-même a remis les péchés. Là, il dit à ses apôtres, vous voyez, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, tous ceux qui demanderont pardon et à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Là, c'est une promesse. Ça va sur les trois. Parfois, c'est un acte de Jésus. Parfois, c'est une consigne qu'il donne. Et parfois, c'est une promesse qu'il fait. Et en fait, à chaque fois, pour chaque sacrement, c'est un peu les trois ensemble. OK ? Donc, ce qui est important de retenir, c'est que, à la fois, les sacrements, ils sont d'abord fondés sur la vie de Jésus. Ça, c'est hyper important. OK ? C'est pas un truc où l'Église s'est dit quelques siècles après, bah mince, comment on va faire pour essayer de rebooter un peu ce que Jésus faisait, et si on a inventé les sacrements ? En fait, c'est de la contemplation de la façon dont Jésus agissait et ce qu'il a dit à ses disciples, avec ses promesses et avec ses consignes qu'il a données, que s'est déployée dans l'Église la question des sacrements. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que Jésus a demandé à ses apôtres de faire certaines choses, d'agir comme lui. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il leur a promis qu'à certains moments, quand ils agiront d'une certaine façon, c'est lui-même qui continuera d'agir. C'est important ces trois choses. Hein. On contemple Jésus, la façon dont il se comporte. En même temps, Jésus promet et dit à ses apôtres de faire certaines choses, et qu'en faisant ça, c'est lui qui va continuer à agir. Ça va sur ce premier point ? Ensuite, un deuxième point important par rapport à Jésus, c'est que c'est la façon dont Jésus veut continuer à nous rejoindre aujourd'hui. Il y a mille façons dont le Seigneur peut nous rejoindre. Et honnêtement, je pense que, surtout dans cette salle, si on faisait le tour un peu de comment le Seigneur nous a rejoint, peut-être que certains diraient, ben moi c'est à travers un sacrement, peut-être que pas du tout. Et du coup, il y aurait plein d'exemples qui diraient, ben moi en fait le Seigneur il m'a rejoint dans ma chambre, le Seigneur il m'a rejoint par une amie, le Seigneur il m'a rejoint par une parole que j'ai entendue. Enfin, vous voyez, il y a plein de façons dont le Seigneur peut nous rejoindre. Hein, et Dieu n'est pas limité par ses sacrements. Par contre, de manière habituelle, Dieu a voulu nous rejoindre par les sacrements. Vous voyez, donc ça c'est important, c'est que c'est comme un rendez-vous que le Seigneur nous donne. Donc ça ne veut pas dire qu'en fait on ne peut pas rencontrer Dieu de façon différente. Un jour il y avait un gars qui m'avait posé cette question, il m'avait dit bah, moi très bien, Dieu oui, mais l'Église non. Et il m'avait dit moi Dieu je veux bien croire en lui, par contre la question de l'Église c'est niette. Vous voyez, juste après il me disait par contre moi je lui avais proposé de faire un truc le soir pour qu'on puisse continuer à discuter. Il me dit non désolé, là, je peux pas parce que je rejoins ma copine au cinéma. Et je dis, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu vois, effectivement, en fait, ta copine, tu pourrais très bien l'appeler et lui dire, non, finalement, je ne viens pas au cinéma, ou tu pourrais très bien faire plein de choses. Il y a plein d'autres lieux dans lesquels tu pourrais rencontrer ta copine. Pourtant, tu lui as donné rendez-vous au cinéma, et donc, si tu n'y vas pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Oui, c'est un peu la même chose avec les sacrements. En fait, Dieu nous donne rendez-vous dans les sacrements. On peut très bien ne pas y aller et de dire, il y a plein d'autres façons dont le Seigneur pourra me rejoindre. Et au lieu d'aller au cinéma, il aurait très bien pu dire, bon, en fait, finalement, demain, on ira, je sais pas, boire un coup, demain, on ira se promener. Ou... Vous voyez, enfin... Mais donc, cette question du rendez-vous donné dans les sacrements, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, de l'ordre de l'amour de Dieu qui se donne et auquel on est invité à répondre. Donc ça, c'est important de saisir que dans les sacrements, c'est avant tout, vous voyez, un désir de rencontre de Dieu avec nous. Il nous donne rendez-vous à ce moment-là. Bon, je vous ai mis d'autres trucs, mais j'avance pour... vous verrez de toute façon, comme à chaque fois, hein, vous le décortiquerez, vous dormirez avec, enfin bref. voilà. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, mais je l'ai déjà dit, c'est le fait que c'est vraiment Dieu qui agit lui-même dans les sacrements. Tout d'abord parce que c'est Dieu qui veut nous rejoindre, là, c'est ce que je viens de vous dire sur cette question un peu de... vraiment du rendez-vous. Mais le but de du fait que Dieu veuille nous rejoindre, c'est pas simplement, vous voyez, de dire je sais pas, il a l'air sympa, donc je vais le rejoindre, j'ai envie de le rejoindre, ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, Dieu veut nous communiquer sa vie. Si Dieu veut nous rejoindre, c'est pas simplement pour qu'on puisse faire une belle expérience de Dieu, qu'à un moment où ça va pas très bien dans notre vie, on puisse être réconforté par Dieu, et parfois ça l'est, donc c'est trop bien. Mais c'est se dire que le désir profond de Dieu, c'est de nous rejoindre pour que lui-même vive en nous. Ok ? Le désir de Dieu, vous voyez, c'est que notre vie soit transformée parce que nous vivons en lui. Donc quand on dit que Dieu lui-même agit dans les sacrements et que c'est Dieu lui-même qui veut nous rejoindre, ce qu'on est en train de dire derrière, c'est que c'est dans le plan de Dieu que dans les sacrements, il vienne lui-même vivre en vous. C'est pas la cerise sur le gâteau pour des chrétiens expérimentés qui, en plus, auraient la grâce des sacrements et qui permettraient, du coup, d'avoir une survie chrétienne trop stylée alors que d'autres passeraient à côté. C'est le projet de Dieu pour chacun. En fait, je m'en mêle un peu les pinceaux, pardon. Mais... Voilà, bon, très bien. Et si, peut-être, un dernier point, mais ça, c'est un peu gros, un peu ce que je vous ai déjà dit, mais... Le fait que dans le sacrement, c'est vraiment Dieu qui agit. Vous l'avez repéré, quand c'est un sacrement, il y a toujours quelqu'un qui fait le sacrement. Et généralement, ce n'est pas Dieu qui est là. C'est soit un prêtre, soit un évêque, et vous n'avez pas Dieu qui est devant vous. C'est qu'on était baptisé à Pâques, et ce n'est pas Dieu qui enfin, en tout cas, dans le baptistère avec vous, ce n'était pas Dieu qui était là. Pourtant, si. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui agit à travers des sacrements, à travers des ministres, pardon. Eh ben, c'est Dieu lui-même qui vient donner le baptême. Et ça, je vous ai mis un petit truc, parce que ça m'a fait tilt, je retrouve, je ne sais plus où c'était, mais je vais laisser les 5 secondes pour regarder. Tac, tac, tac. Ah oui, voilà, si, c'est ça. Je voulais vous préciser, parce qu'en fait, j'ai entendu plusieurs fois dans les conversations avec certains d'entre vous, donc je me suis dit, je vais quand même leur dire, là, pour que je les ai tous ensemble. Mais vous voyez, du coup, quand on dit que c'est Dieu qui agit dans les sacrements, ça implique... que du coup, en fait, comment je vais le dire positivement ? C'est positif ce que je dis. Hein. Vous voyez, nous souvent, on va dire, ben, je choisis d'être baptisé, je choisis de faire ma confirmation, donc je vais confirmer que je veux être chrétien, que je veux être chrétienne. En fait, avant tout, le sacrement, c'est Dieu qui dit, tu deviens ma fille, ou tu deviens mon fils. Avant que ce soit nous qui soyons en train de dire je deviens chrétienne, vous voyez, si on dit que c'est vraiment Dieu qui agit, si c'est Dieu qui a l'initiative, ça veut dire que c'est lui qui dit en fait je t'aime et du coup je fais de toi ma fille, je fais de toi mon fils. Vous voyez, il y a un petit basculement aussi à saisir. Dans, effectivement, ben, c'est vous qui, si vous êtes là, c'est que vous avez fait le premier pas, c'est qu'à un moment vous avez appelé quelqu'un et que vous avez dit ben, je vais décider de faire le cathé, je vais décider d'avancer sur les sacrements. Et bien sûr, il y a une part de votre volonté qui s'engage, mais méditez ça de temps en temps. Vous dire, punaise, en fait, c'est fou, parce que si c'est vraiment Dieu qui agit dans les sacrements, ça veut dire que avant tout, en fait, c'est lui qui, vous voyez, la confirmation, c'est lui qui me confirme, quoi. C'est lui qui dit, je confirme que t'es vraiment, tu vois, t'es vraiment mon fils, ma fille, que j'envoie en mission pour continuer de porter l'évangile au monde. Vous voyez, il y a aussi, il y a à la fois l'acte de notre part, et en même temps, entrer dans ce truc de c'est Dieu lui-même quoi, qui vient poser un regard de bonté sur vous, c'est Dieu lui-même qui vient vous choisir, c'est Dieu lui-même qui fait de vous ceux qui vivent dans cette vie nouvelle. Voilà, et du coup, le dernier petit élément sur ça, c'est que, vous voyez, les sacrements, c'est pas un symbole. Il y a des choses dans la foi qui sont un symbole. Un symbole, on pourrait dire, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai mis là dans le petit carnet, c'est la question d'un panneau. Ok ? Donc, sur un panneau, quand vous voyez Lyon à 300 km, vous savez que ce n'est pas la ville de Lyon qui est devant vous. Donc, par contre, vous savez que si vous allez dans cette direction et que vous faites 300 km, vous allez arriver à Lyon. Bon, ben, vous voyez, typiquement, le jour du baptême, vous recevez une petite lumière. Cette bougie-là, c'est un symbole qui symbolise la vie nouvelle des baptisés qui est en vous. Mais c'est pas, si elle s'éteint, la bougie, et d'un coup, vous ne cessez pas d'être baptisé, quoi. Donc, c'est un symbole. Ça nous dit quelque chose de vrai, de beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la vigile pascale, on rallume tous la petite bougie parce qu'on est tous baptisés et qu'on a besoin de ces symboles-là qui nous aident. Mais donc ça reste un symbole. Quand on dit que par le baptême, vous devenez fils et fille de Dieu, c'est pas un symbole, quoi. C'est pas une image qui est prise pour vous dire, bah, en fait, plus ou moins, tu es un peu fils et fille de Dieu, mais bon, c'est une façon de parler. Parce que... Non, non, là, on n'est pas dans l'ordre du symbole, mais dans l'ordre de la réalité, de ce signe visible qui a révélé quelque chose d'invisible, qui s'est réellement passé, quoi. Okay, donc c'est important de distinguer ces deux choses, c'est que dans les sacrements, on va utiliser des symboles pour nous aider à comprendre certaines choses, mais le sacrement en lui-même, ce n'est pas un symbole, c'est la réalité. Ça va sur ça ? Super. Bon, et je vais m'arrêter là, parce que j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps de... Deuxième petit temps de partage, mais simplement sur le dernier point là, ce que je vous avais noté, c'est que Dieu nous donne vraiment tout ce dont on a besoin dans les sacrements. Ok ? Donc, à la fois, il nous donne la foi, il nous donne le salut, il nous donne aussi de mieux l'aimer, de mieux nous aimer les uns les autres et de sans cesse devenir meilleur. C'est ça la vie nouvelle en fait. Vous voyez, à travers les sacrements, l'idée c'est que nous puissions grandir dans cette vie nouvelle. Les sacrements, c'est pas des badges qu'on reçoit. Vous voyez qu'on est sur le côté un peu en mode « Ah oui, toi, t'as combien de badges, je sais pas quoi, ou t'as les 7 ?» Moi, c'est dur d'avoir les 7. Mais... non, mais vous voyez, c'est pas des badges, quoi. L'idée, c'est de nous aider à déployer notre vie chrétienne, à la fois dans découvrir la foi, approfondir la foi, en même temps dans le fait d'accueillir le salut pour nous et pour les autres, et en même temps de nous déployer en aimant toujours davantage. Alors... Maintenant, vous avez reçu une petite enveloppe par petit groupe. Je vous explique parce que c'est hyper compliqué. Alors, je l'ai fait avec des enfants du KT, donc normalement... Mais je vous explique avant que vous vous tourniez en petit groupe. Vous avez 4 catégories de papier. La première étape en petit groupe, ça va être d'associer à chaque... Là, normalement, c'est la partie un peu plus simple. À chaque sacrement, la parole de la Bible, la parole de Dieu... qui va avec. Ok ? Première étape, donc une parole de Dieu avec un sacrement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 3 catégories de papier. À chaque fois, il faudra vous arrêter sur une catégorie parce que vous allez trier les sacrements que vous venez de rassembler avec une parole de Dieu dans une catégorie et après vous allez changer de catégorie mais vous allez utiliser les mêmes papiers. Ok ? Vous faites catégorie par catégorie. La première, par exemple, vous allez faire essayer de voir parmi les 7 que vous avez entre vos mains, lesquels sont les sacrements de l'initiation. Donc là, vous avez plusieurs là-dedans. Lesquels sont les sacrements du service et de la communion? Lesquels sont les sacrements de guérison? Ok. Une fois que vous avez fait ça, c'est collégial, hein, on va faire ça ensemble. Hein. Il n'y a pas un qui dit « c'est bon, j'ai révisé à fond et tout ». Ensuite, vous pouvez vous dire « bon, ok, très bien, maintenant qu'on les a séparés dans ces 3 groupes, on remélange tout ». Eh bien, lesquels sont, cette fois vous avez une catégorie avec seulement 2 papiers, lesquels sont des sacrements définitifs, ok, une fois pour toutes, et lesquels sont des sacrements du quotidien. Donc là, rebelote, les 7, vous les dispatchez dans ces 2 colonnes. Une fois que vous avez fait ça, ensemble, vous passez à la dernière étape, où vous vous dites, ben, lesquels sont les sacrements célébrés par l'évêque, lesquels sont les sacrements célébrés par le diacre ou le prêtre. Sachant que, c'est possible que, par exemple, un sacrement soit célébré à la fois par l'un ou par l'autre. Ça va ?
Ouais.
Allez, vous avez 2 heures. En vrai, c'était beaucoup plus simple avec les enfants. J'avais fait une version simplifiée. C'était pas aussi compliqué pour vous. Voilà, donc je ne sais pas comment... J'aurais bien aimé qu'on ait plus de temps de débriefer sur ça, que vous puissiez aussi faire remonter vos questions, mais on est un peu pressé par le temps, on est fini avant 22h, et donc voilà, j'ai terminé. Donc en gros, je pense que vous avez sûrement réussi à trouver le lien entre les sacrements et les paroles. Donc je le redis rapidement, mais donc le baptême, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. La confirmation, Jésus leur dit, recevez l'Esprit Saint. La confession, à qui vous remettrez ses péchés, ils sont remis. L'onction des malades, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils s'en trouveront bien. L'ordre, donc l'ordre, ça veut dire, c'est le sacrement pour les prêtres, évêques, tout ça. Jésus en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Et enfin, le mariage, Jésus se rendit à la noce avec ses disciples. Donc maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le septénaire. Vous savez que ça n'a pas toujours été le cas dans l'Église. Hein. L'Église, à un moment, s'est cherchée de savoir combien il y avait de sacrements. Vous savez que c'est une des distinctions majeures avec le protestantisme, notamment. Donc avec les orthodoxes, on a les mêmes nombres de sacrements. Avec le protestantisme, alors ça dépend un peu des églises protestantes, mais Luther, en tout cas, au XVIe siècle, quand il s'est coupé de l'Église catholique, lui, il a dit qu'en fait, il n'y avait que 3 sacrements. Alors, et donc c'est là où il a un peu divergé avec certains protestants qui eux disaient qu'il n'y avait que 2. Donc généralement chez les protestants, il y aura le baptême et le mariage. Baptême et mariage chez les protestants. Et certains rajoutent l'Eucharistie, mais pas sous la même forme que nous. Typiquement chez les protestants, c'est plus un symbole l'Eucharistie. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, le panneau, des choses qui nous rappellent que Dieu a donné son corps pour nous, mais qui n'est pas le corps du Christ. Voilà. Donc nous, les catholiques, il y a 7 sacrements. Je vous les fais rapidement, sachant que ceux qui préparent leur confirmation, ont une soirée, je crois, ont une soirée la dernière fois, ce soir, peut-être une autre, je ne sais plus. Et l'Eucharistie, on prendra plus le temps la fois prochaine, encore avec moi, on reprendra toute une séance sur l'Eucharistie et sur la messe. On expliquera la messe pour que vous puissiez tous bien la suivre. Mais donc, cette fois, je fais la liste que je déploie rapidement. Ce qu'il faut retenir dans les sacrements, c'est qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est un signe d'une réalité invisible. Donc, à chaque fois, pour chaque sacrement, il y a un geste, une parole, et je vous ai mis là-dedans une grâce qui est associée à ça, d'accord ? Donc, un geste, une parole et une grâce associée. Donc, le baptême. Le geste, le rite essentiel, c'est le fait d'être plongé dans l'eau. Okay, ça, c'est le rite, le geste essentiel du baptême. Si vous n'êtes pas plongé dans l'eau, alors quand on dit plongé dans l'eau, donc c'est soit ce qu'on appelle un baptême par intinction ou un baptême par immersion. Donc soit vous êtes plongé entièrement dans l'eau, soit on vous met de l'eau sur la tête. Okay, donc ça, c'est le geste. S'il n'y a pas ce geste-là, il n'y a pas de baptême. Le geste, il est accompagné d'une parole. La parole, c'est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc il faut ces deux choses pour qu'il y ait le baptême. Vous savez qu'il y a plein de rites complémentaires à côté, certains l'ont vécu, il y a le vêtement blanc, il y a l'onction du Saint-Crème, il y a plein de choses. Ça, c'est des gestes complémentaires qui nous aident à mieux saisir et à mieux vivre le sacrement du baptême. Mais ce qui fait l'essentiel du sacrement, c'est vraiment l'eau avec la parole trinitaire. Ok ? Et donc, quelle est la grâce liée au baptême ? La grâce liée au baptême, c'est le pardon de nos péchés, le pardon du péché originel, hein, on est racheté du péché originel, on est uni à Jésus Sauveur, et on devient enfant de Dieu. Ça va ? Le baptême, c'est une fois. C'était une des questions, là, je ne sais pas si vous avez trouvé facilement sacrement définitif ou sacrement du quotidien. Ça fait partie des sacrements qu'on reçoit qu'une fois. Ce qu'on appelle un sacrement à caractère. Alors, si vous ne retenez pas le nom, ce n'est pas grave, mais voilà, si un jour on vous parle de sacrement à caractère, vous ne dites pas, ok, lui, il est un peu tendu ou je ne sais pas quoi, mais c'est, voilà, on parle du fait qu'en fait, c'est indélébile et c'est une fois pour toutes. Ensuite, il y a l'Eucharistie. Okay, il y a une phrase qui a été dite au Concile Vatican II et qui revient souvent, donc je vous la donne, parce que c'est une phrase qui est assez belle sur l'Eucharistie, mais on le déploiera plus la prochaine fois. C'est l'Eucharistie et la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source, donc c'est de là que tout découle, et c'est le sommet de notre vie chrétienne. On le déploiera la semaine prochaine. Vous voyez, c'est important de se dire que l'Eucharistie, vous voyez, il n'y a pas un sacrement qui est supérieur, il n'y a pas une hiérarchie dans les sacrements, lequel est le plus important, ou je ne sais pas quoi, mais l'Eucharistie a une place toute particulière dans notre vie chrétienne. Donc là, le rite essentiel, c'est la consécration. La consécration, vous voyez, c'est quand on a le pain et le vin, et que le prêtre élève le pain et élève le vin. Ok ? Et la parole qui l'accompagne, c'est quand le prêtre va redire les paroles de l'institution. C'est le moment où le prêtre, généralement, c'est à ce moment-là que l'assemblée se met à genoux pour signifier justement ce qui est en train de se passer. Et c'est le moment où le prêtre dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous » et ensuite il élève le pain puis le vin. Ok, donc le geste et la parole, c'est ça. Et la réalité de l'Eucharistie, je vous le dis parce que ça, la plupart des chrétiens, ils ne savent pas. Souvent, quand on pose la question en fait aux gens, c'est quoi le but de l'Eucharistie, ils vont nous dire, en gros, c'est d'avoir Jésus réellement présent. Vous voyez, comme si un peu l'Eucharistie c'était une machine à miracle. Vous voyez, en gros, on va à la messe pour voir un miracle qui va se passer devant nous, et ça va être vraiment Jésus qui sera là. C'est pas ça le but de l'Eucharistie. Hein. Le but de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie, c'est que toute l'Église ne forme qu'un seul corps, le corps du Christ. Qu'on puisse déjà communier ou qu'on ne communie pas. Vous savez qu'on participe réellement à la messe, hein, même si on ne communie pas. On participe réellement à la messe. On est unis parce qu'on offre en Église le pain et le vin. C'est pour ça qu'il y a l'offertoire, le moment de la quête, là, vous savez. C'est le moment, je le redirai la semaine prochaine, hein, mais c'est le moment où l'Église, ensemble, présente par les mains du prêtre le pain et le vin à Dieu. Et donc, tout ce qu'on communie ou pas, on forme un seul corps. Et donc ça, c'est le but de la messe, c'est de former un seul corps. Et pour former un seul corps, on va avoir besoin de communier au même corps. Mais vous voyez, le but de la messe, c'est la charité et la communion. Ensuite, troisième, la confirmation. La confirmation, donc, le geste, c'est celui de l'onction. L'onction, quand on dit onction, c'est on met de l'huile. Okay ? Donc c'est l'onction du Saint-Crème. D'accord ? Et la parole qui accompagne, alors là, elles ne sont pas en même temps. Vous savez que parfois, il y a des paroles qui sont en même temps que le geste. Typiquement, le baptême, c'est en même temps. L'Eucharistie, c'est en même temps. Bah là, la parole, elle précède. C'est le moment où l'évêque va invoquer l'Esprit-Saint. OK ? Et qu'est-ce qui se passe dans la confirmation ? Ça achève le don qui nous a été fait du baptême. Vous savez que souvent, on dit, on est adolescent dans la foi jusqu'à ce qu'on soit confirmé. Et la confirmation fait de nous des adultes dans la foi. C'est pour ça qu'il y avait un papier qui nous disait quels sont les sacrements de l'initiation. Les trois sacrements de l'initiation, c'est ceux dont je viens de vous parler. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Sacrement de l'initiation, donc de la découverte, de l'entrée dans la vie chrétienne. Bon, mais il y a aussi le fait de déployer les dons du Saint-Esprit et l'envoi en mission avec la confirmation. Est-ce que l'Eucharistie, on peut la recevoir combien de fois ? Dans la vie. Vous voyez, l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, c'est un sacrement qu'on peut recevoir à l'infini, tous les jours. Ok ? Le baptême, une fois, et la confirmation, combien de fois ? Une fois. Donc là, pour l'instant, on a un sacrement qui est un sacrement qu'on peut renouveler, et deux autres sacrements qui sont des sacrements qu'on reçoit une fois. Ensuite, on passe au sacrement de l'ordre, l'ordination. Franchement, si un jour vous avez l'occasion, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais si un jour vous avez l'occasion de voir des ordinations, c'est quand même très très beau. Les ordinations, c'est le moment où soit un prêtre devient évêque, soit un prêtre devient prêtre, ou quand quelqu'un devient diacre, par exemple. C'est très beau, on a la chance d'avoir Alexis parmi nous, alors Alexis il reste quelques années, il va se tenir à l'appel, mais en tout cas, vous voyez, à Lyon, on a la chance d'avoir pas mal de séminaristes. Alexis, je ne sais pas si tout le monde l'a repéré. Peut-être avec toi, Alexis. Alexis, il est séminariste, c'est-à-dire qu'il se prépare à devenir prêtre. Il est là toutes les semaines avec nous, on a cette chance-là. Vous voyez, à Lyon, il y a quand même pas mal de... Chaque année, il y a des ordinations. Si un jour, vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est vraiment un beau moment. Et donc, dans l'ordination, qu'est-ce qui se passe ? Le rite essentiel, c'est l'imposition des mains. Donc, l'imposition des mains, l'évêque va faire ça sur la tête de celui qui va devenir prêtre ou évêque. Et après, tous les prêtres qui sont là font la même chose. Moi, je suis allé à une ordination dimanche, c'est la première fois de ma vie que j'ai imposé les mains à quelqu'un. Et c'était un de mes très bons potes du séminaire. Et du coup, la première personne à qui j'ai imposé les mains, c'était un de mes potes. C'était très, très beau comme moment. Mais vous voyez, tous les prêtres qui sont là vont imposer les mains. Donc ça, c'est le geste essentiel. Et la parole qui va avec, C'est comme pour la confirmation, une parole qui est décalée, qui vient juste après, mais c'est ce qu'on appelle la parole de consécration. Donc l'évêque va dire une longue prière de consécration pour la personne qui va devenir prêtre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est le fait de devenir prêtre, le fait de devenir diacre, d'être, vous voyez, d'avoir cette charge-là de conduire le peuple de Dieu. Ça, vous pensez qu'on peut le recevoir combien de fois?
Une fois.
Voilà. Sauf si on devient évêque, après on a une deuxième ordination, mais en gros on reçoit l'ordination qu'une fois. Ensuite, le mariage. Alors, le mariage, le rite essentiel, c'est la démarche des fiancés. Alors, vous allez voir là, le mariage avec la confession et le sacrement de l'onction des malades que j'ai mis à la fin, les trois derniers, c'est ceux qui sont le moins fixés dans l'histoire des sacrements. Et typiquement, vous voyez, encore aujourd'hui, l'Église se cherche sur ces questions-là. C'est important de le savoir. Vous voyez, il n'y a, a pas un truc où, ça y est, aujourd'hui, on arrive en 2026 et tout est nickel dans l'Église, tout a été bien. Vous voyez, on sent qu'il y a encore des questions autour de ces sacrements-là. Bon, je les ai mis à la fin, mais c'est pas pour ça que... Donc, le mariage, on va dire que le rite essentiel, c'est la démarche des fiancés, donc une démarche libre de se donner l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui va être la parole? Ça va être l'échange des consentements. Moi, un tel, je te choisis, tac, pour épouse. Moi, un tel, je te choisis, pour époux. Donc, vous voyez, on peut noter que c'est un sacrement, c'est un des seuls sacrements, c'est d'ailleurs le seul sacrement, où c'est les époux eux-mêmes qui se donnent le sacrement. C'est très beau, hein. Dans le mariage, ce n'est pas le prêtre qui est là et qui fait que le sacrement a lieu, mais c'est les époux eux-mêmes qui sont les ministres du sacrement, et le prêtre, comme les témoins sont là pour recevoir ce consentement de manière officielle. Mais vous voyez, c'est vraiment les époux qui se donnent l'un à l'autre le sacrement. Et la grâce, c'est d'aimer de l'amour de Dieu. La confession, donc on appelle aussi, vous savez, le sacrement de réconciliation. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai déjà fait le sacrement de réconciliation, mais est-ce que maintenant je peux faire la confession? Vous voyez, c'est plein de termes qui sont donnés différemment. Ça s'appelle le sacrement de la guérison. Enfin, il y a plein de noms qui sont donnés, mais ça, c'est la même chose. Ah oui, juste simplement, il y avait une petite étiquette qui disait sacrement du service et de la communion. Ça, c'est l'ordre et le mariage. D'accord? Et là, on va attaquer les sacrements de guérison, qui sont la confession et l'onction des malades. Le mariage, ah oui, j'en profite. Le mariage, donc, pareil, c'est un sacrement qu'on se donne une fois, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'autant, par exemple, le fait, l'ordre, le baptême, la confirmation, c'est pour l'éternité, autant le mariage, comme le sacrement est échangé par les époux, le sacrement dure tant que les époux sont vivants. Fait que si un des époux, par exemple, meurt, la personne peut de nouveau se marier. Parce qu'à ce moment-là, le mariage, donc le sacrement qu'elle s'était donné avec un autre, parce que justement, c'est le seul sacrement où c'est les époux eux-mêmes qui sont les ministres, ce sacrement-là est tant que les deux vivent. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est là où c'est une situation un peu... j'ai dit un bâtard, mais non, mais... en gros, c'est à la fois un sacrement qu'on reçoit qu'une fois, mais en même temps qu'on peut recevoir plusieurs fois. Vous avez compris. Voilà. Ensuite, donc la confession, c'est le sacrement de réconciliation. Le rite essentiel, ça c'est hyper important, écoutez bien. Le rite essentiel de la confession, donc le geste, c'est la contrition. Le rite essentiel, c'est la contrition. La contrition, c'est quoi? C'est le regret des péchés. Donc vous voyez, par exemple, quelqu'un qui débarque en confession et qui dit « Bon, moi j'ai tué ma voisine, mais franchement, ça ne me dérange pas. » Si le prêtre lui dit « Je ne peux pas te donner la confession », ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la personne. C'est parce que le geste essentiel de ce sacrement, c'est le fait de regretter. Donc le geste, autant, vous voyez, dans l'Eucharistie, par exemple, il faut du pain et du vin. Très bien. Le pain et du vin, c'est quelque chose d'objectif, on le voit. Ce qui est compliqué dans la confession, c'est qu'on parle du regret de la personne et que, en fait, le regret d'une personne, ça ne se voit pas. Il y a une personne qui dit, d'ailleurs, qui peut très bien dire « je regrette » alors qu'elle ne regrette pas du tout. C'est pour ça qu'on fait un acte de contrition à la fin, en disant « même si c'est jamais parfait, même si c'est toujours limité et qu'on ne regrette jamais totalement, je ne sais pas quoi », c'est pour ça qu'on dit cette parole à la fin, qui prouve notre bonne foi, en tout cas. Donc ça, c'est le rite, le geste essentiel, et la parole, qui accompagne, ça va être l'aveu du pénitent et la formule d'absolution que le prêtre va donner, quand il va dire « et moi, je pardonne tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et la grâce de cette confession, c'est le pardon des péchés, la restauration de la relation avec Dieu et la réinsertion dans la communauté ecclésiale. Ça, c'est hyper important parce que parfois, nous, on se confesse, on se dit, bon, comme ça, je vais être en paix, moi, avec Dieu, mais c'est aussi avec les autres, quoi. Vous voyez, c'est une œuvre pour communautaire. Et enfin, l'onction des malades. Le rite essentiel de l'onction des malades, c'est une onction d'huile. Et la parole qui l'accompagne, c'est une prière sacerdotale. Donc c'est un petit peu comme la confirmation et comme l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui n'est pas donnée en même temps que cette onction, mais qui fait le sacrement. Et les grâces qui sont données, c'est l'union à Jésus dans sa passion, le fait de nous donner la force pour supporter la maladie. Parfois, ça peut être la guérison. C'est un très beau sacrement qui parfois, alors vous, c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais dans la tête de certains catholiques, notamment de un peu plus âgés, souvent l'onction des malades était confondue avec l'extrême onction. Donc l'extrême onction, c'est ce qu'on reçoit au moment de ça, juste avant de mourir. Vous savez, c'est là où, généralement, à l'hôpital, on va appeler en disant bah, la personne est en train de mourir, elle a demandé à recevoir l'extrême onction. En fait, l'extrême onction, c'est un mélange, vous voyez, dedans, tu as la confession, tu as l'Eucharistie, tu as le truc. En fait, c'est la personne l'aider à quitter ce monde et à passer dans la vie éternelle. Et ben, on va lui donner à la fois la confession, l'Eucharistie, peut-être aussi l'onction des malades. Et vous voyez, c'est deux choses différentes. On peut très bien recevoir l'onction des malades à 17 ans alors qu'on n'est pas à l'article de la mort, quoi. Donc il faut avoir une raison valable de le recevoir, hein, mais on peut le recevoir plusieurs fois. La confession aussi, on peut y aller plusieurs fois. Hein. Okay. Bon, la prochaine fois, je pense que je reviendrai un peu sur qui donne quoi comme sacrement, mais c'est vrai que c'est pas le plus important, on s'en fout, enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais retenez que l'évêque peut donner tous les sacrements, que les prêtres peuvent donner la plupart des sacrements, que les prêtres peuvent donner la plupart des sacrements, mais ils ne peuvent pas ordonner. Et de manière habituelle, ce n'est pas eux qui confirment, mais un prêtre peut recevoir un prêtre, par exemple, ne peut pas recevoir une dérogation pour ordonner. Par contre, il peut avoir une dérogation pour confirmer. Voilà. Et le diacre, lui, peut baptiser. Et il peut célébrer des mariages. Et voilà. Ah oui. Ah oui, peut-être que vous avez vu des diacres. En fait, il y a deux styles de diacres. Alexis, je l'ai vu. Non, mais il y a deux styles de diacres. Il y a des diacres en vue de devenir prêtre. D'accord ? Donc, avant de devenir prêtre, on est diacre pour un temps. Donc là, c'est des diacres qui sont célibataires parce que ensuite, ils seront prêtres. Et donc ils sont célibataires. Et vous pouvez peut-être croiser parfois dans les villages notamment, ou même ici à Lyon, il y en a quelques-uns, des diacres, ce qu'on appelle diacres permanents, donc diacres pour toujours. Et quelqu'un qui est marié peut devenir diacre. Okay. Alors je termine avec un truc qui me paraissait hyper important, même pour vous aider, vous voyez, à sortir un peu de la truc de j'avance. Et je passe des étapes de sacrement, quoi. Mais ce qui est normal, hein. Mais tac, là, j'ai en ligne de mire, je sais pas, le baptême. Tac, une fois que j'ai passé le baptême, maintenant, en ligne de mire, un tel. Et puis ensuite, tac, et ensuite, vous voyez un peu le... Et du coup, je voulais simplement terminer en vous donnant un peu l'action, la dynamique des sacrements. Je vous inviterai à relire ce dernier petit paragraphe que j'ai écrit. Mais vous voyez, il faut vraiment comprendre que le but... Depuis le début de l'année, on vous parle de la nouvelle alliance, de l'alliance avec Dieu. Le but des sacrements, c'est de vivre de cette alliance. Donc tout ce qu'on vient de dire là, l'idée, c'est d'aider chacun à avancer dans l'alliance avec Dieu, là où on en est. Ça, c'est hyper important, parce que vous voyez, le projet de Dieu, c'est de rejoindre chacun là où il en est, pour le faire se déployer dans le cadre de l'alliance qu'il lui donne. Et vous voyez, du coup, c'est très beau de saisir un peu, en fait, ces trois sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la communion et ensuite la confirmation, comme ce moment où Dieu vient nous façonner pour nous dire, en fait, je vais te donner les moyens de vivre l'alliance. Parce qu'en fait, Dieu pourrait très bien dire, très bien, ok, je fais alliance avec toi, par contre, tu débrouilles maintenant. Dieu vient nous donner d'abord les moyens, c'est ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, d'entrer dans l'alliance. Ensuite, il sait qu'on est faible et vient nous donner des moyens d'être guéri tout au long de notre chemin dans cette dynamique de l'alliance. Ça va être la réconciliation, l'onction des malades. Et en même temps, il veut qu'à travers nous, on se déploie et que cette alliance se déploie. Et il va y avoir ces sacrements, vous voyez, du mariage et de l'ordre en vue du déploiement de l'alliance pour le salut du monde. Et il y a un point qui est essentiel, c'est que la matrice qui nous permet de comprendre l'ensemble des sacrements, la façon dont Dieu agit, c'est le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage nous donne de contempler la façon dont nous devons accueillir chaque sacrement. Le mariage, c'est le signe de la façon dont Dieu se donne à son peuple dans l'Alliance. On a insisté plusieurs fois sur ça dans les premières séances dans la Bible. Et là, il y a quelque chose d'hyper beau à comprendre que, vous voyez, la façon dont Dieu va venir nous guérir, va venir nous soigner, va venir nous accompagner, va venir nous aimer, eh bien, nous, la façon dont c'est visible, c'est à travers le sacrement du mariage. Donc c'est une belle vocation pour ceux qui sont mariés, c'est une belle contemplation pour ceux qui ne le sont pas. Et vous voyez, de pouvoir se dire qu'à travers le sacrement du mariage, il nous est donné de contempler la façon dont Dieu agit dans les sacrements avec chacun de nous. Je dis ça aussi parce que ça nous permet, vous voyez, de mieux comprendre que dans un couple, et peut-être qu'il y en a qui parlent mieux de ça que moi ici, mais que dans un couple, bah, en fait, il y a aussi une question de cohérence, d'apprendre à vivre l'un avec l'autre, d'apprendre à... Et qu'en fait, bah, c'est pas simple, on est sur un chemin. C'est pour ça qu'on parle de l'alliance comme un chemin. Ce qui fait aussi que nous, dans notre propre rapport au sacrement, vous voyez, on est dans un chemin qui est blessé, qui est le nôtre, mais qui est blessé, sur lequel on avance. Ce qui fait aussi qu'il y a des situations dans lesquelles on est, c'est ce qu'on appelle la conversion, il y a des situations dans lesquelles on est, on a besoin de se réadapter pour être ajusté à l'alliance. C'est ça le chemin du chrétien. Le chemin du chrétien, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a des trucs dans ma vie qui ne sont pas en cohérence avec l'alliance que Dieu veut pour moi. Mais que Dieu ne me dit pas à ce moment-là, bah, tant pis, c'est raté pour toi. Il dit, bah, on va avancer petit à petit. Comme dans un couple, ils ne vont pas dire, il y a une dispute, on ne va pas dire, bon, ok, c'est bon, c'est fini, quoi. Vous voyez, ça peut être beau aussi de se poser la question maintenant, bah, en fait, aujourd'hui, dans ma vie, moi, qu'est-ce qui est en cohérence avec ce chemin d'alliance? Quelle est la situation que je vis aujourd'hui? Est-ce que c'est en cohérence avec le chemin sur lequel j'avance? Vous voyez? Et du coup, de ne pas simplement être dans un rapport de tac, en fait, j'avance et puis je coche les cases une par une parce qu'en fait, c'est le chemin classique pour rentrer dans la foi, mais de saisir que ce qui se joue derrière, c'est notre chemin de sainteté, quoi. Et qu'en fait, notre chemin de sainteté, ben, on est tous sur le chemin, on est heureux d'y être et qu'en fait, eh ben, on avance, on est obligé de se convertir sur certains points parce que c'est accueillir la vie de Dieu en nous et que le but de tout ça, c'est l'alliance avec le Christ. Ça va? Vous relirez ça. Ça me semblait important en tout cas de pouvoir terminer sur ce point-là parce que c'est la clé d'une vie chrétienne heureuse, quoi. Où on n'est pas dans un truc légaliste. On va juste prier ensemble. J'ai oublié de prier au début, pardon. Et après, Caroline...
Thank you.